Salut, c'est Théo. Je suis le fondateur et CEO de Koudak, l'agence de growth préférée de ton e-commerçant préféré. Mon travail et celui des 50 membres de mon équipe, c'est de craquer les problématiques de croissance de nos clients e-commerce avec de l'ads, de la créa et du conseil en growth. Dans ce podcast, j'élargis ma culture en enregistrant mes discussions avec les plus belles marques e-commerce françaises en format d'interview ou de table ronde. On a un but, c'est de répondre à une seule question, comment elles ont grossi. Si l'épisode te plaît, oublie pas de mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme de ton choix parce que ça me demande beaucoup de travail et que je suis chaud si tu peux au moins y passer 5 secondes. Sans plus attendre, j'arrête de t'embêter, je te laisse avec cet épisode. C'est parti.
Moi, j'étais pas très à l'aise avec les jargons en fait du e-commerce parce que je pense pas que ce soit notre métier premier. C'est plutôt la réponse client, le savoir-faire, l'attention du détail et la qualité dans le produit sur lequel moi je suis focus pour faire grandir la marque.
Les goûts évidemment du marché anglais sont pas les mêmes que ceux du marché français.
Pas du tout. Ça on l'a compris qu'après.
Ouais.
Paris, énorme succès. Allez, duplicate, on va faire ça à Londres. Sauf qu'à Londres, ils ne consomment pas du tout ces produits-là comme nous on les consomme.
Ce que tu m'as dit, c'était que vous avez bougé la boutique de 60 mètres.
Ouais.
À un moment. Pourquoi ?
À Londres, on a bougé la boutique de 60 mètres. On a bougé là et tout de suite, on a fait x2 en termes de chiffre d'affaires.
Avec... Ouais. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode des Brut e-commerce, Valentin. On va avoir l'occasion de discuter de pas mal de choses puisque ça fait 8 ans que toi que tu es chez le colonel, 10 ans que la marque existe, on en reparlera. Et on a quelques petits sujets qui sont spécifiques, qui seront intéressants pour nos auditeurs, qui sont comme d'habitude notés sur mon petit papier divisé en 3 colonnes. On va d'abord parler de la genèse un petit peu de ta marque, de cette marque que tu as maintenant. Et sur quel problème c'était fondé à la base, et c'est toujours fondé, comment est-ce que ça a eu un impact sur votre culture de boîte et comment vous faites les choses aujourd'hui. Puis on va parler de vos boutiques en physique, qui est un sujet très intéressant pour les DNVB, particulièrement sur cette fin d'année 2022, et encore plus sur 2023, où l'online connaît des remous, puisque tu en as aujourd'hui 4,
oui.
Si je ne dis pas de bêtises, et a priori, il y a pas mal de mouvements aussi, parce que vous avez changé d'adresse, etc., donc on en parlera.
Yes.
Et le dernier sujet, c'est l'international, puisque entre 10 et 15% de ton CA est fait hors de France.
C'est ça, en ligne, sur le site web.
Voilà, et donc ça, c'est génial. C'est un programme chargé, mais avant tout, je vais te laisser te présenter et présenter le colonel.
Yes. Du coup, je m'appelle Valentin Yon. Je suis aujourd'hui le PDG de la société Le Colonel Moutarde, qui du coup gère la marque Le Colonel, puisqu'on a changé notre nom de marque il y a quelques temps pour diverses raisons. On va y venir un peu après. Moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESC Grenoble et un master entrepreneuriat et j'ai sauté tout de suite dans l'aventure Le Colonel en sortant d'études puisque je me suis associé avec ma sœur et mon beau-frère, donc aventure familiale, qui eux deux sont les fondateurs de la marque qui a été créée un petit peu par hasard. Il n'y avait pas une envie business dès le départ, mais les choses ont fait que la boîte a grandi et on a trouvé nos clients un peu plus tard.
Ok, et donc il y a 2 ans de différence entre la création de la marque et le moment où toi t'as rejoint.
Ouais.
Et ce dont on parlait un peu avant de démarrer l'épisode, c'est que ça n'avait pas vocation au démarrage à devenir en fait une affaire, quoi, un business.
Non, pas du tout. À l'origine, c'était un peu du loisir créatif pour mon beau-frère. Parce qu'en fait, lui a, d'un point de vue vestimentaire, une certaine excentricité. Il aime bien se démarquer par la façon dont il s'habille. Il a un côté très artiste comme ça et il voulait s'habiller pour aller à un mariage et mettre un nœud papillon, ce qui se faisait assez peu en 2011-2012. Et énorme frustration pour lui, il a trouvé des nœuds papillons noirs, des nœuds papillons bordeaux et c'est tout. Donc il était assez frustré parce qu'il voulait vraiment pouvoir montrer un peu de sa personnalité à travers ce petit accessoire. Et très frustré, quelques mois plus tard, il s'est offert une machine à coudre et il a commencé à faire ses premiers nœuds pas pour lui. Il a chiné des petites coupes de tissu et il a commencé à faire des tests dans sa chambre. Et test concluant, il a eu ses premiers nœuds papillons faits par lui-même et pour lui-même. Et ma sœur lui a dit « c'est top ce que tu fais, c'est sympa, je fais un petit blog pour montrer un peu ce que tu fais, tes créations. » Et puis voilà, on met une petite adresse de contact et si les gens nous contactent, c'est sympa, on ira se faire un petit resto. Et c'était vraiment ça le début de l'aventure Le Colonel. Et du coup, assez vite, il y a effectivement des gens qui ont envoyé un petit mail pour commander un e-pap, etc. Ouais. Et une commande par semaine, ça a été une commande par jour, et une commande par jour, ça a été une commande par heure, jusqu'à un moment où ils passaient pas mal de temps le soir après leur boulot, parce qu'ils faisaient vraiment ça en mode loisir. Mais ils ont commencé à passer pas mal de temps en 2013 à répondre à ses clients, à faire de la prod aussi, jusqu'au jour où ils ont dit bon, on quitte notre job et on se lance à fond dans l'aventure. Et là, ils étaient dédiés temps plein pour structurer ça. Et moi, à ce moment-là, alignement de planète, je sortais d'études et on s'est associé à trois pour rendre ça un petit peu plus pro, concret et regarder de l'avant, quoi.
Ok. Et donc aujourd'hui, il y a un mot que j'aimais beaucoup que tu employais, c'est que tu te décris pas forcément principalement comme un e-commerçant, même si tu vas en ligne,
Non,
mais
ouais.
plutôt comme un artisan commerçant.
Oui, parce que c'est ce que je t'expliquais, c'est que je pense que le terme e-commerce peut être un peu froid. Et en fait, nous, dans ce qu'on fait, on aime bien cette notion d'artisan commerçant. On a longtemps essayé de définir qui était le personnage, le colonel, l'entreprise, le colonel. Et on arrivait à la conclusion que ce qui nous définissait le mieux, c'était d'être créateur accessible. Parce qu'on fait des beaux produits, très bien faits, fabriqués dans notre atelier à Lille, qui sont assez raffinés, mais qui sont à des prix accessibles. Et c'est ce qu'on voulait un peu mettre en avant. Et je pense que cette idée d'e-commerce, elle est très business. Donc, on est une entreprise, donc c'est logique, il y a des logiques d'entreprise, etc. Mais c'est vrai que la racine de l'entreprise, c'est vraiment le savoir-faire, les machines à coudre, le tissu. Et c'est pour ça que cette idée d'artisan commerçant, je trouve qu'elle s'applique plus à ce qu'on fait aujourd'hui que la DNVB ou les termes un peu plus techniques. Je te disais que moi, j'étais pas très à l'aise avec les jargons en fait du e-commerce parce que je pense pas que ce soit notre métier premier. C'est la techno et le fait qu'aujourd'hui on puisse facilement vendre en ligne qui rend tout ça possible et des développements comme celui qu'on a eu grâce à Internet. Mais c'est vrai que c'est plutôt la réponse client, le savoir-faire, l'attention du détail et la qualité dans le produit sur lequel moi je suis focus pour faire grandir la marque, plutôt que les perfs du site, etc.
Ouais.
C'est une logique un peu différente, je pense.
Bah, ce qui est souvent plus rentable et enfin, comme c'est plus fondamental, souvent c'est plus solide aussi comme fondation quand tu es construit sur la satisfaction client, un atelier, etc. Je vois bien le truc. Et c'est marrant parce que les gens aujourd'hui, ils veulent monter des e-commerce. Enfin, c'est
Oui.
plus vraiment genre je veux trouver une super façon de faire des nœuds
Ouais.
papillons et les délivrer à des clients. Je vais faire un site quoi.
Mais il y a pas mal de chemins pour créer son entreprise, de copier quelque chose qui marche bien ailleurs, je pense. Enfin, c'est ma vision de la chose, ou de répondre là, pour le coup, à un problème qui n'était pas traité par une entreprise. La frustration de mon beau-frère et l'âme entrepreneur de ma sœur fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a une PME qui tourne et qui marche bien. Mais c'est intéressant.
C'est cool. Et donc en fait, ça veut dire que dès le démarrage, il y avait un peu la. Je vais dire, souvent les gens disent la satisfaction client, tu sais, on est concentré sur la satisfaction client, etc. Vous, c'est carrément. Tu passes ton temps dans l'atelier. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait pour toi au début, faire des bons nœuds papillons, tu vois, genre.
D'abord, c'est des petits accessoires. Donc concrètement, ça veut dire, et je pense que c'est important surtout en ligne, c'est que on a des photos produits qui sont ce qu'elles sont, mais tant qu'on ne touche pas le produit, tant qu'on n'a pas le produit dans les mains, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de se projeter sur les finitions. On a des systèmes d'attache de pression qui permettent d'ajuster le nœud papillon, par exemple. Parce qu'on va beaucoup parler de nœud papillon, on fait beaucoup d'autres choses, mais ça reste le produit phare chez nous. Mais c'est l'attention qu'on peut mettre dans notre sourcing de tissus, par exemple. On n'a jamais fait aucune concession sur la qualité des tissus qu'on employait, parce que c'est ce qui fait qu'on va avoir un nœud pap qui se tient bien, c'est ce qui fait qu'on va avoir des motifs qui sont intéressants, parce qu'on va acheter des tissus dans des maisons qui éditent des imprimés qui sont hyper sympas. C'est ce qui fait que l'aspect général du produit va être beau. Quand on fait pas mal de cravates aussi aujourd'hui, quand on a une cravate dans un tissu qui est moyen, ça se voit. Et du coup, ça, c'est des choses où, dans la qualité du produit fini en général, c'est l'étape de base, c'est des bonnes matières premières, sans lesquelles nous, même si on a beaucoup de qualité dans l'atelier, dans l'équipe atelier, si on n'a pas un beau tissu, on ne peut pas faire un beau produit. Donc ça, c'est la base. Et du coup, nous, on n'a jamais rogné là-dessus. On a une chaîne de valeur qu'on maîtrise de A à Z. Du coup, ça n'a jamais été les achats de matières premières une question où on doit faire des concessions. Et puis après, c'est sur le temps qu'on met aussi aux équipes pour faire de la finition. C'est-à-dire que au lieu de faire notre production avec une équipe de 5, bah, on préfère la faire avec une équipe de 8 ou 10, pour se dire que tout est impeccable, qu'on prend le temps de bien faire les choses, qu'on prend le temps de faire des coins. Alors c'est un peu industrie textile, mais c'est vrai qu'on a des coins de nœuds papillons, s'ils ne sont pas finis proprement, ça se voit à la fin. Et ça prend du temps. Il y a beaucoup de manipulation humaine. Et c'est des choses sur lesquelles on ne veut pas faire de concessions. Ça commence par ça.
Ok. Et tu disais que c'est assez cohérent aussi avec le fait que t'achètes pas un... Enfin, le papillon, c'est pas un produit du quotidien, du moins tout le
Non.
temps, et que ça vient avec les grandes occasions. Tu me racontes des trucs assez marrants au démarrage, que t'as des gens parfois qui viennent voir 8-15 jours avant leur mariage, qui sont
Ouais.
hyper stressés. Et
Hyper
donc,
stressé, ouais.
en fait, parce que en fait, moi, je suis toujours en fait dans ces formats e-commerce, un peu le mec qui traduit un point de vue business ce que les gens passionnés racontent.
Bien sûr.
C'est que du coup, ça va te coûter plus cher de faire ton produit,
Oui.
puisque t'as plus de gens qui bossent dessus. Mais c'est aussi parce que la propension à payer et l'importance qu'on va accorder à l'achat de ce matériel-là est plus haut.
Exactement.
Ouais.
Et puis, nous aussi, on a la particularité d'avoir des boutiques physiques où les gens voient. Et en fait, je pense qu'on va revenir souvent à ça, mais à l'origine, on ne voulait pas créer cette entreprise. Non, mais c'est l'envie de mon beau-frère de se faire plaisir. Et du coup, même au démarrage, quand ça a repris avec les premières commandes, etc., il n'y avait pas de logique business. Et du coup, la priorité, c'était de faire des belles choses pour faire plaisir pour les grands jours. Effectivement, en boutique, moi j'ai passé 2 ans en boutique, j'ai ouvert la boutique qu'on a à Paris et après la boutique de Londres quand on est allé s'installer à Londres. Mais j'ai vu les clients, j'ai vu l'attention qu'ils pouvaient mettre sur le choix de ce petit accessoire qui avait l'air d'avoir des conséquences énormes pour le jour J, pour ceux qui achetaient ça pour se marier. Et voilà, je pense qu'on peut pas être, on doit être intransigeant dans la qualité du produit pour pouvoir déjà être à l'aise aussi, parce que quand on a le client qui est en face de soi et qu'on n'est pas à l'aise avec son produit, on n'est pas à l'aise avec son client. Et voilà, pour moi, c'est un peu le leçon de commerce 101. Il faut commencer par ça, quoi. Être convaincu par ce qu'on fait avant de convaincre les autres.
Ouais, et puis on y revient souvent. On met ça beaucoup, nous, d'un point de vue, si on veut vraiment faire des séparations de sens des mots, entre les astuces enfin les trucs qui créent de la valeur et les trucs qui en captent. Et souvent, tu vois, l'e-commerce, c'est souvent capter cette valeur, comment j'améliore mon taux de
Ouais.
conversion, des meilleures photos, etc. Et en fait, les gens qui ont les plus grosses boîtes, c'est toujours ceux qui ont réussi à créer le plus de valeur. Parce que c'est beaucoup plus simple de passer de l'un à l'autre que dans l'autre sens. Du moins, dans les profils de personnes qui montent des boîtes.
C'est sûr.
Sur la partie développement boutique, donc toi, tu es de Lille.
Oui.
Comment ça s'est passé, en fait, géographiquement et dans le temps, ton implantation physique?
Physique, en fait, assez vite, le projet dans la chambre de mon beau-frère s'est transformé en un projet d'un petit atelier à Lille. Ça a permis d'avoir des horaires d'ouverture et d'avoir un espèce de showroom. Donc en fait, l'idée d'atelier est assez vite devenue un atelier boutique. Du coup, ça a été le premier point de vente physique et un peu le point névralgique de l'entreprise qui était contenu dans 20 mètres carrés à l'origine. Et quand on s'est associé, du coup, fin 2014, l'idée tout de suite pour moi, ça a été de rentrer comme associé pour faire toute la gestion d'entreprise, finance, compta, etc. Et en parallèle, d'ouvrir une boutique à Paris, du coup, dès début 2015. Pourquoi? Parce que via notre site web, on avait beaucoup de demandes de l'Île-de-France. On avait le téléphone qui sonnait souvent pour savoir où étaient nos revendeurs à Paris, où était notre showroom à Paris. On n'en avait pas. Pragmatique comme on est, on s'est dit, boum, on va ouvrir à Paris. Du coup, ça a été le premier gros projet pour moi quand je suis rentré dans la boîte. Et ça a marché tout de suite. On a tout de suite eu un certain succès à Paris. Du coup, je suis reparti dans le Nord à la fin de l'année 2015 pour commencer à bûcher sur un nouveau projet de boutique. Et du coup, là, on a enchaîné après en 2016 en allant ouvrir à Londres. Du coup, je suis allé m'installer 1 an à Londres pour, de la même manière, ouvrir la boutique londonienne, et ainsi de suite. Donc, voilà.
Salut, c'est Théo. J'espère que tu es en train de kiffer ce petit échange qu'on est en train d'avoir avec notre invité. Je fais un petit entracte parce qu'on vient de passer tout ce temps ensemble et tu sais probablement pas du tout ce que je fais et ça serait très impoli de pas me présenter. Donc mon travail, il est simple, j'aide les marques à grossir sur internet. Pour ça, j'ai monté une suite d'agences qui est aujourd'hui composée de 4 entités: Koudak pour le growth e-commerce, Le Labo pour les créa e-commerce, Linker pour la marque personnelle des CEO sur LinkedIn et 9/16 pour faire grossir les marques en organique sur TikTok. Et donc même si tu veux pas bosser avec une de ces agences dont les liens sont d'ailleurs en description, tu peux au moins t'abonner, ça encourage la chaîne parce que ça me prend du temps et ça me coûte de l'argent. Je te vois là, tu t'abonnes pas, hein? Moi, je m'en fous, je peux attendre longtemps, je suis dans mon canapé. J'attends.
A few moments later.
C'est bon? Ouais, merci beaucoup d'avoir cliqué sur le bouton. J'arrête de t'embêter, je te laisse avec mon invité. C'est parti. J'ai plein de questions. Hein. T'inquiète pas, tu disais que le premier gros tournant, ça a été quand vous avez ouvert à Paris, où tu m'avais dit les chiffres. Ouais. Vous êtes passé de 250 000 à 1 million d'euros de CA.
Ouais.
Donc une explosion.
Fou. 416% de croissance ouais. à l'époque. Alors sur 250 000 euros, qui n'est pas énorme, mais qui est déjà un vrai chiffre d'affaires. Enfin, on en vivait déjà... Voilà. Mais c'est vrai que le saut de 250 à 1 million d'euros, et c'est, franchement, c'était une année super. Parce que moi, j'ai été pris de toutes parts. On était une petite équipe. On est toujours une petite équipe, mais là, c'était équipe restreinte. On était sur tous les fronts. C'est-à-dire que moi, je sortais de la boutique le samedi soir. Je sautais dans le train pour retourner à Lille. Le dimanche matin, on était un peu off. Le dimanche après-midi... C'était gestion des commandes du site web. Le lundi, rebelote. Et le mardi matin, je ressautais dans le TGV pour aller ouvrir à Paris la boutique. Et on a fait ça pendant un an parce que on n'avait pas trop le choix. On n'était pas structuré comme on est structuré aujourd'hui. On était les associés, on a tout faire. Rémi était à fond derrière les machines à coudre. Ma sœur était à fond dans la gestion du site, dans les SAV, dans la gestion de la boutique aussi, atelier qu'on avait à Lille. Et puis moi, en parallèle, je trimais bien avec les clients qu'on avait à la boutique de Paris, plus revenir les week-ends pour gérer le web. Mais c'était super parce que quand j'ai signé pour ce projet-là, il y a pas mal de gens qui se sont dit entre consultant à la Défense et vendre des nœuds-papes avec ta sœur, je ne sais pas si j'aurais fait ce choix-là. Et puis, quand on voit la dynamique d'entreprise qu'il y a eu juste derrière, c'est sympa, quoi. Ouais. Franchement, on a des très, très bons souvenirs de cette année. On a beaucoup travaillé.
Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça s'est... Si tu devais expliquer pourquoi ça a bien marché, en fait, ce lancement à Paris.
Je pense que ça a bien marché parce que dans l'habillement masculin, je pense qu'il y avait franchement strictement rien. Et c'est vrai que pour se démarquer, on avait le choix entre... un nœud pape Hermès ou une cravate Hermès à 175 euros ou quelque chose d'extrêmement moyen dans les grands magasins qu'on connaît à 14,99 et il n'y avait vraiment pas d'entre-deux. Et ça a été ce pourquoi mon beau-frère s'y est mis. Et je pense que tout de suite, on a eu cette notoriété-là. Aussi, on a relancé un produit qui était vraiment désuet. Le nœud pape, en 2010, il n'y en a pas un nulle part, personne ne veut en mettre un. Et du coup, on a rendu ce truc beaucoup plus cool, beaucoup plus trendy, avec des imprimés qu'on n'utilisait pas jusqu'ici, avec un formalisme qui était associé au nœud papillon qu'on a complètement gommé. Et puis voilà, on avait une dynamique d'entreprise et une envie d'entrepreneur de présenter ces produits-là d'une façon un peu plus différente. Il y a aussi une tendance mariage, parce qu'on fait beaucoup de mariages, on habille beaucoup les cérémonies et les mariages. Une tendance mariage, de mariage un peu plus décontracté aussi. Du coup, on a eu la chance de pouvoir surfer sur cette vague-là avec des mariages un peu moins gardés, un peu plus champêtres, un peu plus cool et détendu, entre guillemets. Et ça a fait que, voilà, on était les seuls à proposer ça. Et on avait une réactivité aussi, ça je pense que c'est important, au retour client qui était quasiment instantané. C'est-à-dire que, au début, quand on a commencé, on n'avait pas forcément une offre produit aussi large que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Et dès qu'on avait un client qui nous disait bah, « Vous ne faites pas des rayures orange ?» Non, mais la semaine d'après, on faisait des rayures orange. Et d'accord. On a construit notre catalogue un peu comme ça au début. Alors, ça a ses limites, hein, parce qu'à un moment, écoutez, que les clients bêtes et méchants, ça ne crée pas des collections cohérentes. Mais ça a été, je pense... une des grosses clés de succès, c'est tout de suite être à l'écoute des clients et de faire ce qui était attendu de leur part. Parce que nous aussi, on naviguait un peu à vue dans un marché qui n'existait pas, avec une tendance que nous, on était en train de créer. Et du coup, à part les retours clients, on n'a pas vu mieux pour savoir ce qu'on devait faire. Donc, on s'est vraiment basé là-dessus.
Ok. Et ça a toujours été un bon guide? Vous n'avez jamais touché à côté en écoutant un client?
Un client, assez vite, on a pu écouter un seul client. On a écouté des choses qui étaient redondantes chez les clients. Mais non, en fait, ce qui est vraiment cool chez nous, c'est que comme on est producteur-vendeur, il n'y a aucun risque en fait, à pousser une nouvelle référence. C'est-à-dire qu'on va acheter un coupon d'un certain métrage de tissu qui n'a pas d'incidence pour nous. On va le produire, on va faire nos photos, mettre en ligne. On a une graphiste en interne depuis les premiers jours. quasiment. Et du coup, pour nous, il n'y a vraiment aucun investissement sérieux à lancer une collection de tel ou tel tissu. On va juste faire attention à ce que si les références marchent bien, on puisse revoir ce tissu. Mais on démarre toujours avec des quantités raisonnables. On pousse un petit peu, on voit si ça plaît. Si ça plaît pas, on va pas le reconduire. Si ça plaît, on peut le reconduire. Et ça, c'est top, parce que c'est vrai que la réactivité de l'atelier qu'on a à pouvoir produire le matin et que ce soit en ligne le soir même, ça. Ouais, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de frein sur ça. Donc l'offre a été très vite très complète et je pense que c'est ça qui a plu aussi, quoi.
Ok. Et comment ça s'est traduit, ça, quand vous avez ouvert à l'étranger? Parce que on en parlait avant, en fait,
Ouais.
les goûts, évidemment, du marché anglais sont pas les mêmes que ceux du marché français.
Pas du tout.
Ouais,
Ça, on l'a compris qu'après, par
ouais.
contre. Ouais.
Donc vous, c'est arrivé avec vos apprentissages français.
Ouais.
On va dupliquer.
Ouais, exactement. On s'est dit, OK, Paris, énorme succès. Allez, duplicate, on va faire ça à Londres. Sauf qu'à Londres, ils ne consomment pas du tout ces produits-là comme nous, on les consomme. C'est-à-dire que autant ils sont mondialement connus pour leur excentricité, nos chers amis anglais, autant sur les mariages, ils sont très. Il y a un formalisme à respecter. Même dans des mariages un peu cool, en vivant à Londres, j'ai assisté à des mariages au UK, de gens très détendus, très sympas, etc. Mais mariage, c'est formalisme, c'est costard, queue de pie, trois pièces, petit chapeau de forme. C'est la carte postale de Prince et William, tout en dimanché, quoi. Et du coup, ouais, la culture nœud-pape chez eux sur ces événements-là est vraiment différente. Ils consomment du nœud-pape sur des soirées plus qu'on appelle black tie. C'est vraiment des soirées un peu cocktail, donc c'est un peu différent. Mais ça, on l'a compris un peu après. Du coup, on a remodelé un peu la boutique qu'on avait. On a déménagé notre boutique aussi. On a remodelé notre boutique en mettant en avant certaines catégories de produits et certaines gammes de produits avant de mettre en avant les nœuds papillons plus édulcorés qui font notre succès en France, mais qui étaient reçus un peu différemment là-bas.
Ok, et cet apprentissage, d'un point de vue méthode, ça a été exactement la même chose qu'en France. Les gens qui passaient à la boutique
Ouais.
voyaient qu'en fait ça achetait jamais.
Bah, en fait, non, mais on voyait bien que ce qui les intéressait, ce n'était pas ce que nous, on vendait traditionnellement en France. Et du coup, après, on avait quand même une réflexion au siège pour avoir des gammes de produits qui soient plus cohérente aussi avec la boutique de Londres. Mais ce qui fait la force de la marque, c'est le choix aussi. Donc en fait, aujourd'hui, si on parle que de nos papillons, on doit avoir 140, 150 choix différents. Donc il y en a pour tous les goûts. Donc on a aussi construit avec le temps des gammes qui étaient plus tranquilles, entre guillemets, en termes de mode, d'esthétique, qui plaît plus en Angleterre, et des choses un peu plus originales, un peu plus colorées, qui sont peut-être plus la marque de fabrique en France. Ouais.
Ok. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la boutique.
Ouais.
Maintenant, d'un point de vue localisation, des locaux. Tu disais que vous avez fait pas mal d'itérations, même en France. En commençant par Londres, parce que ce que tu m'as dit, c'était que vous avez bougé la boutique de 60 mètres
Ouais.
à un moment. Pourquoi?
À Londres, on a bougé la boutique de 60 mètres parce qu'on était sur une petite rue d'une grande artère.
Ouais.
Et comme on n'était pas connu comme on était connu à l'époque déjà en France, ça marchait moins bien. Et du coup, on s'est dit, faut régler le problème. Et moi, un peu par hasard, j'ai vu un local qui était vide sur cette fameuse artère. Et littéralement, on peut voir la boutique, des deux boutiques, on peut voir l'une et l'autre. Et on a bougé là, et tout de suite, on a fait x2 en termes de chiffre d'affaires
Incroyable,
avec
oui.
le footwalk et le trafic que ça générait tout de suite en piéton. Puis après aussi, alors. Je pense que c'est vraiment le déménagement qui a fait que, mais en parallèle, on avait quand même investi sur des campagnes un peu plus spécifiques, sur une agence de RP basée à Londres pour comment dire, accompagner la marque dans son développement là-bas. Mais c'est vrai que le changement d'adresse a été remarquable, ouais, ça c'est clair.
D'accord. Et donc ça, c'est ton enseignement principal sur le fait d'ouvrir des boutiques qui cartonnent?
Ouais, je pense que bah, surtout pour nous. On est quand même sur un marché pas restreint, mais nos clients, on ne les voit pas 10 fois par an. Donc on va peut-être les voir une seule fois dans leur vie, on va peut-être les voir une fois tous les 18 mois, quelque chose comme ça. Logiquement, en tout cas, pour les mariés, on se marie qu'une fois, logiquement. Pour les invités, bon voilà, ça peut être différent, mais c'est vrai que on voit pas nos clients souvent et du coup, on a vite compris qu'il fallait quand même mettre les boutiques sur des artères qui soient passantes. pour pouvoir aussi avoir une stratégie qui s'ouvre un peu à des produits plus de tous les jours. Là, ça se voit pas, mais je porte du Colonel Moutarde, du Colonel, avec des caleçons. On fait pas mal de caleçons. On fait des produits, des petits pyjamas shorts pour les femmes, des choses comme ça, des choses un peu plus de tous les jours. Et ça prend si on a un peu pignon sur rue et si on peut montrer ça et expliquer aux clients qu'on est une marque qui est connue pour plein de papillons, mais qu'on a plein d'autres accessoires aussi autour. Et c'est vrai que l'enseignement de Londres, ça a été vraiment ça, c'est se dire, si on va quelque part, en physique en tout cas, il faut y aller sérieusement et pas avoir peur de prendre un loyer un peu plus conséquent, mais pour s'offrir une belle boutique. Et nous, on a quatre boutiques aujourd'hui, donc on n'a pas un réseau de dizaines et dizaines de boutiques. Mais les quatre, chaque ville où on est implanté, ont été déménagés ou en cours de déménagement pour avoir vraiment des top emplacements, parce que c'est ce qui fait que le retail, qui a un côté un peu compliqué, là, post-Covid, avec tous les événements qu'on connaît, etc. Mais d'autant plus aujourd'hui, je pense que dans le retail, il faut avoir des bons emplacements, parce que les gens continuent à se balader, continuent à faire du shopping, mais un peu moins. Et du coup, voilà, d'avoir ces boutiques-là bien placées, qualitatif, ça participe à beaucoup de choses, quoi.
Ouais, et c'est-à-dire que même parfois, en fait, tu me le disais, plutôt que d'ouvrir une nouvelle boutique, vous allez d'abord vous concentrer sur déménager une boutique
Ouais.
existante dans un meilleur endroit,
Ouais.
et vous en êtes parfois dans certaines villes, tu disais, au troisième déménagement?
Ouais. À Lille, c'est notre troisième déménagement, parce que le petit atelier boutique a bien poussé. On a pris des petites cellules pour grandir à l'époque, parce qu'on avait 25 mètres carrés. On a fini par grappiller tous les mètres carrés qu'on pouvait avoir à cette adresse-là à l'époque, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Et en 2017, on a acheté notre siège social et on a acheté 500 mètres carrés dans le quartier de Saint-Maurice-Pellevoisin à Lille pour installer nos bureaux, la logistique, l'atelier. Et du coup, on a dissocié la boutique de notre siège social. Et du coup, là, on a eu plus de liberté sur le choix de la cellule commerciale. On s'est installé d'abord dans le quartier de la Treille, que les Lillois connaîtront bien. Et puis après, rue de la Clé, qui est vraiment aujourd'hui, à nos yeux, le must pour notre boutique en tout cas. Avec ma sœur, quand on a trouvé cette cellule, on s'est demandé où est-ce qu'on serait mieux si on n'était pas là. Et on n'a pas trouvé de réponse. Du coup, on s'est dit, voilà, c'est l'emplacement qu'il nous faut, et on a foncé dessus.
Ok,
Voilà.
ça c'est un peu du feeling en fait aussi hein, dans la façon dont vous choisissez les locaux.
Complètement. On n'a jamais tergiversé. Je pense qu'il faut se faire confiance, et il faut pas trop hésiter. Si on hésite, c'est qu'il faut pas y aller. Enfin, en tout cas, ça a été notre tempérament jusqu'ici. C'est d'être ultra convaincu de ce qu'on va faire et du projet qu'on va mener. Et si on sent un emplacement en disant ouais, c'est pas mal, je pense que pas mal, c'est pas assez, quoi.
Ouais.
Il faut sentir l'excitation, se dire ouais, là, on va être bien et on a envie. Et voilà, il faut sentir ce truc qui fait que. Moi, je me souviens quand on a déménagé notre boutique à Paris avec ma sœur, on visite un endroit, on se regarde et on se connaît très bien, on voit tout de suite que c'est OK et on regarde l'agent IMO, on était dedans depuis 30 secondes et on a dit c'est bon, on prend, quoi. Et on a déménagé notre boutique comme ça, rue de Turenne à Paris, et c'est une super boutique, on en est ravis. Mais je pense qu'il faut foncer aussi parfois. Parfois, il faut prendre le temps de réfléchir, parfois, il y a des adresses qui nous plaisent, il faut y aller. Voilà, tout simplement.
Ok. Je suis passé un petit peu vite sur l'agence RP
Ouais.
hors de France. J'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler en fait avec des invités de ce podcast, donc je suis très chaud de t'entendre un peu parler dessus.
Ouais.
Tu dis que vous avez eu des retombées dans le Sun. Est-ce qu'il y a une façon différente de fonctionner quand tu fais des RP hors de France, genre bah, au UK par exemple?
C'est compliqué dans le sens où cette agence RP qu'on a à Londres, c'est la seule agence RP en fait qu'on
Ah oui, c'est vrai,
connaisse.
elle fait la France aussi.
Elle travaille pour nous en France, mais c'est vrai que ça a participé. Enfin, on a fait ce choix-là consciemment d'avoir une agence qui s'occupe de la marque à un certain moment aussi, parce que on a commencé à avoir une agence RP en 2019, donc on était déjà un peu établi. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'on était en place, mais on voulait avoir une agence RP pour pousser notre notoriété à Londres et en parallèle aussi avoir un son de cloche et un mood un peu différent de ce qu'on connaissait déjà. C'est un peu tricky dans le sens où on a créé un marché qui n'existait pas en France. Du coup, on voyait mal une agence nous expliquer comment mieux faire ce qu'on avait déjà, je trouve, en toute modestie, bien réussi en France. Par contre, au UK, c'est vrai qu'il y avait un chantier de noto et qui était quand même pas mal pas mal conséquent et là on avait moins de certitudes. Du coup, c'était ultra pertinent de bosser avec eux. Et en parallèle, quand on a une com qui est efficace, quand on fait de l'influence, etc., ça profite pas seulement à la boutique physique qu'on peut avoir à Londres, ça profite sur le site web, ça profite à l'image de marque en général. Et ouais, ça a été vertueux dans ce sens-là.
Okay. Super, intéressant. On va continuer un petit peu sur l'international. Aujourd'hui, ça fait entre 10 et 15% du CA, donc c'est quand même pas mal.
Ouais.
Et tu disais que c'est pas si galère que ça, mine de
Non.
rien, de commencer à vendre hors de France. J'ai noté que finalement, il y avait quoi? Tu as un peu de traduction, mais faire en sorte que ton site puisse accepter les livres, et que ça soit bien clean. Le multi-boutique sur PrestaShop, parce que vous êtes sur PrestaShop.
Ouais.
Mais pour toi, c'est pas la mer à boire, quoi.
Non. Alors, le multi-boutique, ça a été un grand rêve pendant longtemps pour nous.
Ouais.
Parce qu'en fait, on a aussi des produits. Là, on va revenir plus e-commerce. Ça va te faire plaisir,
Ça
mais.
tombe bien.
Ouais. Non, mais on a des produits qui n'ont pas de taille, qui rendent très bien en
Ouais.
photo, qui voyagent extrêmement bien. Et on a presque vendu dans tous les pays au monde. Mais c'est vrai qu'à un moment, il faut se focus sur des marchés si on veut faire de l'international. Il faut mettre les efforts sur certains marchés. Nous, on a choisi les UK parce qu'il y avait la proximité, parce que Londres nous faisait un peu aussi rêver et que on a eu envie de concrétiser ça après le succès qu'il y a eu à Paris. Mais c'est vrai que côté développement international, le volet technique du multi-boutique, c'est pas nous qui l'avons subi. On a déjà internalisé beaucoup de métiers dans la société, que ce soit la logistique, la prod, le commerce, enfin quasiment tout, sauf l'aspect technique du site web. Donc on a notre agence qui s'est occupée de la coque technique pour le multi-boutique. Mais après, en dehors de ça, l'ouverture à Londres, finalement, c'était simplement la création d'une entité juridique pour pouvoir exercer là-bas, mais de la même manière qu'on a un peu de démarche administrative à faire si on voulait ouvrir une boutique en France. Ce qui a été le seul truc que j'ai vu un peu chaud quand même, c'était de réussir à avoir un compte bancaire. Alors ça, quand on n'est pas dans le pays installé avec du justificatif, etc., c'est un peu compliqué, mais il n'y a rien d'impossible puisqu'on y est arrivé, donc ça va. Et puis après, ça nous a aussi forcé cette ouverture à Londres d'être ultra carré sur les traductions du site, forcément de pouvoir accueillir des livres sterling sur le site internet et que ça ce soit hyper fluide pour le client. Je pense que si on veut bien réussir, en tout cas se donner les moyens de réussir à l'international, il faut que ce soit que ça a l'air d'être sans barrière pour le client anglais. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec le Brexit par exemple, nous, on se sert de notre boutique de Londres comme un hub aussi pour pouvoir faire un peu de logistique éventuellement. Mais ça, je pense que le client qui est en Angleterre, qui veut se faire livrer à Londres, il faut qu'il sente qu'il y a la confiance du site et que ce n'est pas quelque chose qui va peut-être être compliqué en termes de douane, de machin, de paiement, etc. Il faut solutionner et lisser toutes ces petites frictions que le client pourra avoir au moment de passer commande. Et si on fait bien les choses, normalement, ça se passe bien, quoi. Mais avec le bon produit,
Ouais.
toujours. Ouais.
Et tu disais que même sur la clientèle française, le fait d'être présent à l'étranger,
Ouais.
ça a eu un petit effet waouh.
Un gros effet waouh. Mais ça, nous, ça nous paraissait un peu dingue, mais on a minimisé l'impact de l'ouverture de notre boutique à Londres pour nos clients français. C'est-à-dire que nous, en étant basés à Lille, Londres, c'est pas si loin. C'est 1 heure de retard, c'est quasiment aussi facile que d'aller à Paris. Donc on se dit, ben, on ouvre une boutique à Londres, pas de problème. Mais c'est vrai que quand on disait à nos clients à Londres, pardon, à nos clients en France qu'on avait une boutique à Londres, leur tête, c'était vraiment genre, oh, mais trop stylé, mais l'enthousiasme incroyable. Je pense qu'il y a une côte un peu, une côte de cool et de sympa sur Londres qui est notable. Et je pense que si on avait dit on a ouvert une boutique à New York, ça aurait été encore pire. Mais c'est
Ouais.
vraiment ce truc de ah ouais, ok, il y a un succès international dans cette boîte qui est existant. Et ça se voyait vraiment, genre littéralement, sur la tête des clients. C'était assez. Ça marche toujours, hein, mais c'est remarquable.
Ouais, c'est marrant de le voir comme ça,
Ouais.
de Bah voilà, tu vas ouvrir à l'étranger, mais ça va avoir un impact sur
Ouais,
même aussi
c'est hyper positif parce que c'est vrai que la valeur perçue du coup de la marque et de ce qu'elle fait, de son développement, elle est énormément impactée par ça. Parce que c'est vrai que des marques françaises, on en connaît tous, des marques françaises qui s'installent à l'international et pour qui ça fonctionne plutôt bien, déjà on réduit un peu les quantités. Mais nous, on s'est installé là-bas en 2016, on y est toujours en 2022. Donc ça fait 6 ans et on le voit en ligne, les exportations vers les UK en tout cas continuent de grandir chaque trimestre. Donc non, jusqu'ici, c'est une bonne expérience.
Okay. L'autre pays dans lequel vous êtes présent de façon un petit peu différente, c'est les États-Unis,
Ouais.
à Los Angeles.
Los Angeles, en physique, alors là, on est présent. Via un pop-up, en fait, justement avec la boutique à Londres et la traduction du site internet, qui était dans un anglais merveilleux, traduit par ma femme, du coup, qui est anglaise. On a eu plus de commandes aussi vers les US, l'Australie aussi. Et du coup, alors on n'est pas sur des mêmes volumes qu'au UK, mais c'est vrai que ça ne fait que grandir. Et du coup, on a cherché un peu de la même façon qu'on a ouvert notre boutique à Londres pour. Gagner un peu en notoriété, prendre une agence RP. On a cherché aussi des moyens un peu différents, mais de pouvoir augmenter la notoriété de la marque via des plateformes, notamment une plateforme qui s'appelle Wolf & Badger, qui est une plateforme bien connue des anglo-saxons, mais certainement pas par l'audience française
Ça, mais
de
ça
notre
m'étonnerait,
podcast, mais qui du coup est une plateforme qui met en avant des marques qui sont éthiques, qui font des beaux produits, et voilà, ils font un check-up de qui tu es avant de pouvoir. Intégrer la plateforme, et du coup, même si tu connais pas la marque Le Colonel, si tu connais Wolf & Badger et que tu
t'as le
découvres,
tampon.
voilà, tu as le tampon et tu as un peu ce gage de qualité. Et du coup, on est revendu en physique dans leur boutique. Pour le coup, ils ont des boutiques à New York, à Londres et à Los Angeles. Donc là, on est vendu en ce moment à Los Angeles. Et ça, ouais, rien que de le
Ça
dire, non mais,
fait quelque chose.
ouais, rien que de le dire, je me dis non, mais c'est stylé. Et c'est vrai qu'on, ouais, c'est des belles adresses. C'est des
Ok.
belles adresses.
Vous n'êtes pas présent en D2C par contre aux US. Vous vendez
Non,
pas en direct?
on a eu un petit revendeur, on a un petit réseau de revendeurs, des petites boutiques indépendantes qui peuvent nous approcher pour revendre derrière. On a eu un moment en Californie une boutique, mais qui est plus d'actualité. Mais c'est vraiment une petite partie de notre chiffre d'affaires. Nous, à 90% de notre chiffre d'affaires, il est fait en direct via nos boutiques ou notre site web. Donc les 10% restants, ça va être des gros comptes ou des choses comme ça, mais c'est pas notre focus point.
Ok. Dans ce cas-là, où est votre focus pour le futur?
C'est une bonne question, c'est une bonne question. Tiens, je suis un peu à court de mots. Notre focus point, je sais pas, je pense qu'on consolide en fait. On sort du Covid aussi, on a eu des années Covid, comme on était beaucoup associés aux grands événements. Et grands événements, cérémonies Covid n'étaient pas très bons amis. Donc on sort encore du Covid. Mais non, moi j'aimerais bien rouvrir une autre boutique. Je trouve que le retail, c'est hyper satisfaisant, c'est hyper concret aussi quand on vend pas mal en ligne, parce que nous, le gros quand même, notre chiffre d'affaires reste en ligne. Mais c'est vrai que c'est vertueux et on se sert de l'un pour améliorer l'autre. J'aimerais bien ouvrir à Bruxelles, par exemple. On sait que via notre site web, on sait que c'est un endroit où on vend bien. Et on s'est toujours servi de notre site internet pour justifier des adresses qu'on allait prendre ensuite. C'est-à-dire que, comme ce que j'ai expliqué un peu plus tôt, quand on a ouvert à Paris, c'est parce que l'Île-de-France et Paris demandaient nos produits. Et du coup, on s'est dit, OK, c'est pertinent. Quand on a ouvert à Lyon, c'est parce qu'on voyait bien qu'en Rhône-Alpes, quelques années après, on avait vraiment pas mal de commandes qui partaient en Rhône-Alpes et c'était pertinent. C'est un peu la même chose là vers la Belgique. On est déjà installé à Londres. Je pense que la Belgique et Bruxelles, ce serait d'abord géographiquement plutôt facile pour nous. Ça, ce serait pas mal. Et ce serait un beau projet. Mais sinon, après, je pense qu'on essaie toujours de présenter la marque pas forcément associée au nœud papillon. Parce que les gens associent énormément la marque pour ça. Et on fait beaucoup d'autres choses, et c'est un peu ça notre cheval de bataille d'un point de vue com et image de marque, c'est faire comprendre aux gens qu'on fait beaucoup d'autres choses.
Ok. Et le but, du coup, c'est un peu de vous remettre aussi de, du Covid qui a un gros impact sur le chiffre d'affaires. Ouais. Tu dis, vous étiez à, c'est assez 2 millions et demi avant le...
2 millions et demi avant Covid. Là, pour l'année civile, on va reflirter avec les 2 millions. Donc, ça va dans le bon sens. Mais 2 millions et demi, ouais, j'aimerais bien revoir cette barre-là, peut-être flirter avec les 3 millions, je sais pas, pour 2023. Ce serait top.
Eh bien, on te le souhaite, évidemment. Je parle des auditeurs, évidemment, qui t'ont écouté et qui te remercient peut-être autant que moi pour avoir répondu à toutes mes questions.
Avec grand plaisir.
Dans ce format, je vais te poser la toute dernière question de ce podcast, qui est standard. Okay. Est-ce qu'il y a une autre marque e-commerce, ou pas d'ailleurs, que toi, tu admires?
C'est une marque américaine qui fait du prêt-à-app qui s'appelle Aimé Léon Doré ou Aimé Léon d'Or, ça dépend comment certains le disent. Mais j'aime bien parce qu'ils ont l'image de marque, je suis hyper sensible à l'esthétique qu'ils ont réussi à créer. Et je trouve qu'ils ne vendent qu'en ligne. Après, ils ont un shop physique, je crois, à New York, et ils viennent d'ouvrir un shop à Londres. Mais sinon, ils vendent en ligne et dans leurs deux shops. Et l'esthétique qu'ils ont réussi à créer, je trouvais hyper séduisante. Ils ont un gros Insta, ils font pas de pub, ils sont forts.
Et qu'est-ce que tu admires, comment tu la qualifierais, cette esthétique?
Dans le vêtement, ils ont vraiment ce... Comment dire, c'est élégant, mais décontracté. C'est assez sportwear, mais chic en même temps. Il y a un truc comme ça, un peu hybride, mais qu'ils ont réussi à vraiment faire remarquablement. Et ça se voit dans les photos, dans l'imagerie qu'ils ont, dans les petits clips vidéo qu'ils font. Souvent, c'est des choses assez simples, mais très esthétiques. Je trouve ça remarquable. Et le succès qu'ils ont, je pense qu'ils le méritent vraiment à l'image de marque et les styles, les silhouettes qu'ils réussissent à créer. Et le gars derrière ça, De Santis, je crois, son nom, la marque lui doit... Enfin, c'est sa marque, hein, mais... La marque lui doit... On sent la créativité du gars et la patte qu'il veut mettre, quoi. Et ça, je trouve, d'un point de vue créateur, c'est top. Je trouve ça top. Voilà.
Ok. Eh bien, écoute, j'ajoute dans ma liste de références des benchmarks. Mais en effet, je suis allé mater. On voit la patte pour un créatif comme moi, même avec mes compétences limitées. Merci beaucoup, Valentin.
Avec grand plaisir. C'est moi qui te remercie.
Et écoute, j'espère que cet épisode aura plu. Enfin, vous aura plu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Bruts e-commerce. Merci à Valentin d'avoir passé ce moment avec nous.
Avec grand plaisir.
Et ciao à tous.
Salut.